Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 9 février 2026. On se retrouve avec un Bitcoin à 70 500 et nous allons voir dans un instant si la clôture hebdomadaire s'est bien déroulée et ce que ça pourrait dire pour la suite. C'est parti! On se retrouve donc avec un Bitcoin à 70 500 $ en rebond léger sur les dernières 24 heures, mais toujours à moins 8 sur l'hebdo, moins 22 sur le mois. La seconde crypto-monnaie du marché, Ethereum, à 2070, autour de l'équilibre sur 24 heures, moins 7 sur l'hebdo, moins 33 sur le mois. Et la plupart du temps, mis à part quelques lignes qui se comptent, même pas sur les doigts d'une main, comme Hyperliquid qui est dans le vert, en journalier, en hebdo et en mensuel, plus 35% à $32, la plupart des lignes sont malheureusement dans le rouge et il faudra composer encore un petit temps avec. On a toujours également le gold, bien entendu, qui est en positif à 11% pour le Pax Gold. On a Sky, anciennement Maker, donc qui est autour de plus 16 également en mensuel. Donc un résistant au sein de la DeFi, 45e place, 1,55 milliard de capitalisation. Et on clôture donc le top 60 avec du Midnight, Arbitrum, Caspa, Algorand, Atom Cosmos. Et sachant que pour Arbitrum en particulier, récemment, les déclarations de Vitalik Buterin au sujet des Layer 2 ne sont pas très encourageantes. Donc je vous invite, si vous avez des Layer 2 en portefeuille, à faire le tri incessamment sous peu. Et on clôture donc ce top 60 avec des market cap qui sont très largement sous le milliard de capitalisation. L'offre exclusive NordVPN, notre partenaire du jour, avec une remise exceptionnelle et plus 4 mois offerts, satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Vous pouvez naviguer en toute sécurité en vous connectant sur 9000 serveurs dans quasiment tous les pays au monde en sécurisant 10 appareils avec un seul compte. Le tout en ayant un des gestionnaires de mots de passe les plus performants à ce jour qui vous permettra d'avoir un mot de passe robuste pour chacune de vos applications. La possibilité de stocker vos fichiers dans un cloud privé, hormis bien entendu votre fameuse clé privée ou vos mots, ça toujours, on ne le met jamais sur internet ou nulle part, c'est sur le petit papier et directement au coffre. Et surtout à ce jour, ce qui fait la grande différence par rapport à la suite NordVPN, c'est le filtre protection anti-menace pro qui en temps réel bloquera les logiciels malveillants, les trackers, les pop-up, les publicités et vérifiera si vous n'interagissez pas avec un faux site ou avec un faux airdrop pour nous du côté des crypto-monnaies et tous les sites qui pourraient être vérolés. Donc on sait à quel point aujourd'hui ça peut avoir son importance, notamment dans un monde dans lequel tous les jours il y a des fuites de données. Vous avez le lien en commentaire et description, ça vous fait une remise substantielle jusqu'à moins 75%, n'hésitez pas, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours et vous avez 4 mois offerts et ça nous soutient grandement. On passe aux news avec pas mal de mindset aujourd'hui mais aussi de la data pour essayer de vous donner les perspectives qui pourraient se dérouler dans les prochains mois et les prochains trimestres. On avait Ozzy donc qui nous proposait un chart ici avec les deux derniers points bas qui étaient réalisés donc sur ce graphique en 2 semaines et on pourrait avoir donc si toujours on est sur cette cyclicité de 4 ans puisque beaucoup de monde là aussi peut-être pour tenter de se rassurer d'un point de vue psychologique ont mis au rebut fin 2025 ou même au cours de 2025 quand les altcoins étaient en déroute, le fait que ce cycle serait totalement différent, etc. Finalement, on a topé pile poil en octobre, là où on devait toper au jour près. Ça avait été call même sur un forum de 4chan par un mec des années au préalable, donc c'est quand même assez fou. On se demande parfois si on ne vit pas dans une simulation. Toujours est-il, si ça suit pile poil la route qui a été tracée depuis plus d'une quinzaine d'années désormais pour Bitcoin, eh bien on pourrait voir le futur point bas quelque part en octobre 2026 à nouveau et avec un point bas qui serait autour de $40 000. Un post intéressant également, et c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans l'aspect psychologique slash ce qu'on accepte de prendre comme risque par rapport à l'allocation qu'on y met pour être totalement aligné à la fois avec ce qu'on veut et à la fois avec ce qu'on fait. Et donc il y avait PowerPasher qui disait tout le monde a l'air tellement certain que Bitcoin va à $1 million et qu'il faut en accumuler un max. Est-ce que ça serait pas méga drôle qu'on retape jamais un ATH et que les retails que nous sommes se fassent déchirer une fois de plus? Et c'est vrai que quand on regarde comme ça les 3 cycles précédents plus celui qu'on vient de traverser, eh bien il n'a pas eu le panache qu'on a connu sur les cycles passés et on a vu malgré tout un Bitcoin progresser de 15 000 à $125 000, donc ça n'était pas rien. Je rappelle également que, eh bien, systématiquement, on pèse le pour et le contre sur la chaîne du risque de ruine potentielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit à quel point l'IA se développe beaucoup plus vite en termes d'adoption et de scalabilité à grande échelle que la blockchain, on se pose légitimement la question de, à un horizon de temps de 10 ou 15 ans, comment vont se comporter les crypto-monnaies, Bitcoin, la blockchain en termes de technologie pure et dure. Ceci étant dit, en 2022, on s'était posé la même question sur cette chaîne quand on était à 15 500 en dépression intense, en pensant qu'on ne passerait jamais sous l'ancien floor des 20 000 que constituait l'ATH précédent. Et donc, on était dans une industrie où toutes les banques étaient en train de se faire shooter. Terra et FTX venaient de créer le plus grand trou dans la raquette et crise de confiance jamais vue depuis Mt. Gox. Et malgré tout, on a eu une remontada qui nous a offert un x7, un x8. Donc, c'était assez extraordinaire. Donc, hormis le fait que sur la chaîne, on ne soit pas des grands défenseurs de dire que le Bitcoin ira un jour à 1 million de dollars, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a pas mal de choses qui, pour moi, aujourd'hui, ne collent pas avec un Bitcoin à 1 million. Alors, le principal argument des défenseurs de ça, c'est que l'inflation, au travers de dizaines d'années supplémentaires, pourrait mécaniquement faire monter les actifs et donc la monnaie continuerait de se déprécier. Mais hormis ça, voilà, il faudrait qu'il y ait une adoption complètement folle pour voir un Bitcoin à 1 million ou que le système traditionnel se soit complètement effondré, ce qui voudrait dire potentiellement des conflits, des guerres, etc. Je ne sais pas à ce moment précis si Bitcoin serait le plus en odeur de sainteté, mais pourquoi pas. Toujours est-il aujourd'hui, quand on garde un minimum confiance en l'avenir, quand on investit sur quelque chose, sinon ça ne sert à rien d'investir dessus, eh bien le but c'est de déplacer le curseur de l'allocation qu'on accepte d'y mettre afin de pallier à justement un risque de ruine potentiel. Le Bitcoin est recommandé par les gérants de fortune américains ou les gérants de fonds à 1 à 3% aujourd'hui. D'autres sons de cloche, notamment des travaux que nous avons menés de notre côté, donnent 5 à 10% d'un portefeuille global et uniquement en Bitcoin, puisqu'on l'a vu du côté des altcoins, au long terme, le risque de ruine est quasiment certain là pour le coup, puisque je crois une fois il y avait un tweetos qui avait fait une étude en remontant jusqu'à 2013 ou 2015 et on avait 99% des altcoins qui, la plupart du temps, à 4, 6, 8 ans, étaient complètement à zéro. Donc, faites très attention avec ça. Donc, aujourd'hui, malgré tout, est-ce que ça ne serait pas un risque de ne pas être exposé à Bitcoin? C'est plutôt ça la question. Donc, nous, on veut rester exposé, mais dans cette fourchette entre 1 à 10%, en fonction de l'appétence au risque que vous avez, de l'âge, etc. Ça amène le kick de volatilité attendu au portefeuille, tout en maximisant la convexité sans se traquer cassé de si on va finir complètement à poil. Là aussi, je vous parle peut-être un petit peu chinois pour certains, mais on va très certainement faire une masterclass prochainement pour vous montrer preuve à l'appui que parfois, le mieux, le trop, le full exposition est l'ennemi du bien, puisque calcul à l'appui, on peut avoir sur une vingtaine, une trentaine d'années, un portefeuille qui se comportera mieux, par exemple, en étant à 85% en actions, potentiellement sur un simple ETF World, et 15% sur des allocations subsidiaires comme par exemple un peu de cash ou tout simplement des obligations, plutôt qu'un portefeuille à 100% actions qui va se prendre systématiquement sur un horizon de temps de 10, 20, 30 ans, un crack à la 2000 ou à la 2008 et qui fait reculer substantiellement le portefeuille. Donc on y viendra dans quelques temps là sur la chaîne, dans quelques jours ou quelques semaines, le temps qu'on travaille un petit peu plus le sujet et que surtout je vous fasse une belle présentation PowerPoint. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça sur la chaîne, mais voilà, globalement, on va parler du risque ratio récompense, mais dans la profondeur, c'est-à-dire dans l'allocation même de ce qu'on peut y mettre, et surtout à quel moment on place ce curseur de si je mets un point dans telle catégorie, combien ça peut me rapporter, combien ça peut me coûter en termes de baisse, et c'est là où, au travers de différents ratios, que ça soit la frontière efficience, que ça soit le ratio de Sortino, le ratio de Sharp, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on arrive à la fin à un portefeuille plus ou moins, qui offrirait une volatilité entre 8 et 10%, un rendement annualisé attendu autour de 7, 7,5, et un drawdown max qui serait autour de 18%, ce qui semble assez extraordinaire aujourd'hui. Et sachant que si vous prenez un ETF 100% action ou même un S&P 500 qui aujourd'hui délivre à peu près 10% par an sur des décennies, eh bien vous serez plutôt sur une volatilité qui va avoisiner les 12 à 15 points, et derrière vous avez un risque max taxe de drawdown de 35 à 40%. Donc c'est là où l'investisseur avisé va préférer être rongé de quelques points quelque part pour essayer petit à petit d'avoir une stabilité au long terme. Et d'un point de vue purement psychologique, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de digérer un moins 18% sur un crack type 2000-2008 que un moins 40%, vous vous en doutez bien. Donc je me suis perdu une fois de plus au sein même d'un sujet qui est super intéressant, mais toujours est-il, pour en revenir à nos moutons, de même que sur le gold qui a été la risée pendant des années, parfois des décennies, car il ne faisait rien et ne produisait rien en termes de valeur, aujourd'hui le discours a changé juste parce que son prix a lui-même changé. Alors le regard des investisseurs se modifie également et ça se termine par le FOMO que l'on ne connaît trop bien. Donc n'oublions pas que les marchés sont super cycliques, celui des cryptos est en train de se délester de ses fantômes et shitcoins du passé pour se concentrer sur l'essentiel, Bitcoin et une poignée de projets qui seront rapportés du rendement mais aussi se comporter comme une vraie action ou société, générer du revenu, être profitable, avoir un vrai use case et tenir au travers du temps. Un jour reviendra bien entendu, la voilure reprendra du côté des ETF et les gérants voudront 5 à 10% au lieu de 1 à 3% et à ce moment-là un nouveau cycle se mettra en place. Les deux outcomes et finalités à tout ça, c'est à un horizon de temps de 10 à 15 ans, Bitcoin sera soit devenu une monnaie de geek un peu délaissée, pas d'adoption à grande échelle et tendra naturellement à fortement régresser, soit il aura trouvé un terrain de cohabitation à la fois avec l'IA, la TradFi, qu'il a déjà finalement un peu accepté au travers des ETF. Alors, une fois sa capitalisation à 5 000, peut-être 10 000 milliards, il deviendra à ce moment précis de plus en plus intéressant pour la stabilité qu'il offrira plus sa rareté. Donc aujourd'hui, on est dans ce cycle entre deux. On a eu un premier cycle de rupture qui a été ce cycle de 2023 à 2025. Celui qui arrive là, qu'on est en train de commencer à vivre par ce début de bear market, et j'espère qu'on est déjà bien avancé sur ce dernier comme vous tous, eh bien nous mènera à la transition suivante et petit à petit, soit on aura un cycle comme ça un peu en ventre mou pour le cycle de 2026 à 2030, ou bien on aura déjà un cycle où les institutionnels vont continuer de charger la mule sur des prix qui peut-être deviendront de plus en plus attractifs si on se redirige vers 40 ou 50 000 dollars comme on l'a vu tout à l'heure. Un truc marrant, c'est que Coinbase, et c'était Brian Armstrong, le CEO, qui commentait tout ça, a mis 100 millions de dollars pour la pub au Super Bowl. Alors ça rappelle de mauvais souvenirs, puisqu'en 2022, ça avait déclenché l'apocalypse la dernière fois qu'on a vu un Coinbase qui avait fait une pub au Super Bowl. Espérons que cette fois sera différente, là, pour le coup. Jeff Bezos, grand patron fondateur d'Amazon, on est toujours dans le mindset aujourd'hui, mais c'est intéressant, quand on lui demande au sujet d'une telle réussite et comment gérer son stress, il répondait d'être dans l'action, de ne pas procrastiner, de ne pas reporter les choses, puisque quasi 100% des choses qui nous tourmentent sont celles sur lesquelles nous pouvons agir, mais nous ne faisons rien. Donc c'est simple et basique, mais c'est quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, vous savez, la fameuse charge mentale de quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas réglé, et ça va être un peu comme une tâche de fond à laquelle on ne pense pas vraiment, mais qui va revenir systématiquement un petit peu nous embêter. Et je pense que dans un portefeuille et sur les marchés, c'est d'autant plus important d'apprendre très vite, le plus vite possible, à se connaître soi-même pour voir à quel moment notre cerveau est en train d'essayer comme ça de mettre un petit peu la poussière sous le tapis pour nous empêcher justement de passer à l'action, notamment quand c'est en train de se gâter. On avait encore un graphique, une infographie qui nous parlait de cycles, etc. Avec ce coup-ci là, bon, il a fait une fractale de ce qui s'était passé précédemment. Je suis un petit peu moins fan et finalement ça corrobore pas mal tout ce qu'on a vu précédemment, donc je reviens pas là-dessus. Brett également qui nous parlait des trois phases du bear market, avec la première phase de décrochage qui pour lui aurait été réalisée à partir du moment où on est passé comme ça de 80 à 60 000 dollars, et la phase ensuite où on a la consolidation slash digestion. Et c'est vrai que pour le marché crypto, comme il le dit très bien lui-même, c'est rarissime, ça n'est jamais arrivé d'ailleurs, en tout cas peut-être pour le crack Covid, voilà, qui était un vrai bottom multimarché, mais sinon les bottoms réels du marché crypto sur le fameux cycle de 4 ans se sont toujours passés ainsi. On n'a jamais eu, jusqu'à ce jour en tout cas, de V-bottom. On a eu une période de digestion, une période de consolidation, de doute, comme on disait tout à l'heure, est-ce que ça va remonter, est-ce que le marché crypto n'est pas en train de crever. Et c'est à partir de là où aussi on a les headlines du côté des médias la plupart du temps qui annoncent que le Bitcoin est mort, blablabla, vous connaissez la musique. stratégique. Souvent, c'est un peu le signal avant-coureur de notre côté qu'on est en train d'arriver sur le point bas. Fib qui nous partageait donc pareil les bandes qui prennent les points les plus saillants et les points les plus bas. Et pareil, on pourrait revenir autour de 45 000 $ selon cet indice qui avait pris le dernier point bas. Ici, on aurait un point haut futur à venir chercher autour de 210 000. Donc clairement, c'est ce que je vous disais dans les 2-3 dernières émissions. Si on nous donne un Bitcoin entre 40 et 50 000 en point bas terminal de ce bear market, alors même qu'on est déjà venu à 60, c'est pas la mer à boire, vous en conviendrez. Et que derrière, plus tard, on revoit un Bitcoin à 150, voire 200 000, ça fait un ratio risque-récompense, là, pour le coup, qui est totalement en notre faveur. Exactement comme à l'époque, quand on était sous les 20 000, à 15 000, ne serait-ce que si on remontait à 70 000 de l'ancienne ATH, le risque était totalement à nouveau en notre faveur. La Russie et la Chine qui font des réserves de gold complètement folles, donc pour la Russie, c'est 400 milliards de dollars, ça n'est pas rien, et ça, c'est un pied de nez, bien entendu, à la fois à l'Europe et aux États-Unis surtout. On a de nouveau un ban, alors du côté de la Chine pour les cryptos, comme disait Benjamin Cohen, quel bear ne serait pas sans avoir un China ban au milieu, donc on va voir si ça pourrait avoir un impact, et notamment du côté du minage, mais aujourd'hui, je pense que voilà, c'est un coup oui, un coup non, et dans tous les cas, au travers du temps, ça n'a pas changé diamétralement ou fondamentalement la trajectoire du Bitcoin. Et quand on parle de la Chine au niveau de l'or, c'est 40 000 onces d'or qui ont été ajoutées, donc en janvier seulement, 2026, l'accumulation continue, et la plupart des banques d'investissement, quand bien même on a un chart complètement vertical du côté des métaux précieux, pensent que ça pourrait encore perdurer quelques mois à quelques trimestres. Charlie Bilelio qui nous partageait donc les retours sur 10 ans de l'ensemble des actions américaines, mais aussi de Bitcoin. On a Nvidia qui est devant Bitcoin avec 26 000 %. Bitcoin a imprimé sur 10 ans 17 000 %, AMD 10 000, Tesla 3 400, Apple 1 200, Netflix 800, Google 800, Microsoft 770, Amazon 600 %, Meta 500, S&P 322, le Gold 312 et l'US inflation 37 %, soit approximativement 3,7 % par an d'inflation aux États-Unis, ça n'est pas rien. Donc hormis le fait que sur cette dernière liquidation qu'on a eue en fin de semaine dernière pour le marché crypto et le plus gros volume qu'on ait vu d'histoire d'existence pour l'instant de iBit, donc iShares, c'est l'ETF Bitcoin de BlackRock, que d'ailleurs vous pouvez acheter même sur les bourses françaises. Vous avez été beaucoup dans les commentaires à me demander sur quels ETF on peut s'exposer, que ça soit en Europe, en France ou peu importe. Vous tapez sur votre banque en ligne ou sur votre broker ou que sais-je, Bitcoin ou Ether ou quelque chose comme ça, ou iBit pour le coup, et vous trouverez directement, on va dire aujourd'hui, 3 à 5 propositions d'ETF. La meilleure aujourd'hui en termes de frais, en tout cas pour l'instant, je crois que c'est bel et bien iBit à vérifier de votre côté. On est à 0,15 et ça passera dans un ou deux ans de temps à 0,20 ou 0,25 de frais annualisés. Mais voilà, on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui et en termes de réplication et en termes de volume. Donc je suppose que ça en fait le plus robuste au vu du peu d'historique qu'on a sur cette ETF tout simplement. Au niveau de l'analyse technique, donc pour le crypto total, on a clôturé juste sous le support ici puisqu'on s'est arrêté à 2370 milliards. Donc toute la zone ici entre 2400 et 2600 est désormais une zone de résistance puisque ça a été la zone de décrochage. On a la moyenne mobile 200 qui a tenu pour l'instant à 2050 milliards. Donc est-ce qu'on va réussir à se construire entre les 2050, 2100 et les 2500? C'est là la question. Je suppose qu'on a de quoi nous faire une bonne digestion autour du printemps, voir si on arrive à repasser au-dessus de cette zone. Pourquoi pas rallier les fameux 3000 milliards. Ça correspond plus ou moins à 90 000 $ du côté de Bitcoin. Pour l'instant, j'y crois pas trop. Et surtout, il va falloir voir du côté de BTC de déjà reprendre en première intention autour de 75 pour espérer rallier à 80. C'est plus difficile de remonter en général que ce que c'est facile de traverser comme ça les planchers. Et on le voit, on met des mois, des trimestres à réaliser des performances et souvent ça se fait rincer en quelques jours, quelques semaines. C'est là où aussi le marché des crypto-monnaies est assez problématique hein, quelque part. Et c'est ainsi qu'on vous rappelle systématiquement quand ça monte et quand ça monte bien de prendre vos profits en cours de route parce qu'on ne sait que trop bien avec l'expérience à quel point quand le marché des cryptos se retourne, il peut absolument tout reprendre et très rapidement. Le crypto total 2, toujours en bas de ce canal parallèle ascendant, les altcoins, c'est très difficile. On est venu mêcher donc autour de 855, on est de retour à 960. Pour l'instant, statu quo au niveau des altes, rien ne sert de se précipiter. Puis surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, prenez vraiment ça pour acquis au long terme. Ça va être quelque chose qui très certainement sera vrai pour un bon moment, mis à part période de quantitative easing comme on a eu en 2020 où l'argent va dans tout et n'importe quoi, mais dans des périodes un peu plus restrictives, eh bien voilà, c'est pas tout et n'importe quoi qui montera. La dominance des stablecoins après avoir topé autour de 0,13 et de retour à 0,11, ceci étant dit, le top absolu de 2022 était à 0,17, donc à surveiller également. La Bitcoin dominance toujours stable, proche des 60%, donc ça fait quand même depuis août 2025 ici où on est sur cette stable entre 57 et 60 et quelques pourcents. On est typiquement dans les digestions qu'on avait eues en 2019, dans la digestion qu'on avait eue en 2022, sauf qu'on était beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, ça démontre aussi qu'au long terme, eh bien, Bitcoin n'a pas envie de laisser plus de dominance que ça aux altcoins. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir exploiter de notre côté, tout simplement, de nouveau pour avoir une allocation qui colle un peu à la réalité du marché de ce moment. Pour le Bitcoin en tant que tel, donc on a clôturé la semaine autour de 70 300, quelque chose dans ces eaux là donc on peut se dire qu'on s'est raccroché au 0,5 de Fibo. On a clôturé malgré tout sous une zone clé des 74-76, donc pour l'instant il y a quand même de grandes chances à nouveau qu'on tricote entre les fameux 60 000 et les 76 000 au nord. Le plus resserré serait 70-60 bien entendu, et le plus dramatique serait de repasser sous les 60 000 puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, on pourrait finir quelque part autour du 0,786 si ça se gâtait bien, et ça serait le fameux scénario où ça commence à grincer des dents un petit peu, notamment du côté de MicroStrategy. Alors c'est vrai que, comme le mettent en avant les fameux experts de MSTR, de la dilution, de Michael Saylor, ils n'ont fondamentalement pas besoin de vendre leur Bitcoin avant des années et des années. Ils peuvent très bien se payer le luxe d'attendre que même Bitcoin baisse voilà, de dizaines de milliers de dollars supplémentaires et ne rien faire, tout simplement. La question, c'est à quel moment ça va coincer avec le board, avec l'ensemble des actionnaires, etc., quand ils vont vouloir redim, et notamment les actions prioritaires, parce qu'il y a une dilution assez monstre. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez risqué à ce jour, MSTR, tant pour l'action MSTR, surtout premièrement, que ce que ça pourra avoir comme implication pour le marché crypto. Ether, pour sa part, a clôturé autour de 2080 dans ces eaux-là, après avoir méché 1760-70. Donc on a quasiment touché hein, la trame de long terme. Je me suis mis deux petites lignes ici pour voilà, on a une double trame qui passe, donc tout ce qui se passerait sous 1600, ça peut être potentiellement une invalidation, et ça voudrait dire qu'on peut redescendre jusqu'à 900$ pour la seconde crypto-monnaie du marché. Tout ce qui se passe entre 1400 et 1700-1800 est une zone de réaccumulation long terme qui peut s'avérer pertinente, de même qu'aujourd'hui on ne sait pas si on ira plus bas que ce point qui a été fait ici à 1750. Tout va dépendre de la première crypto-monnaie du marché, du maître d'orgue finalement, et à savoir Bitcoin. Sur ce début de semaine, bien entendu, je ne reviens pas sur les Treasury Company, les minières, etc., puisque les États-Unis sont fermés, on va attendre la réouverture. On avait eu des rebonds en intraday jusqu'à 26% pour MicroStrategy, donc c'était assez énorme. Et du côté des actions américaines, pareil, le week-end n'a pas changé grand-chose, donc on va attendre de voir et d'avoir un petit peu plus de visibilité sur ça. Pour ce qui est des indices et des métaux, puisque finalement j'ai fait l'émission avec un petit peu plus de focus sur les cryptos que sur le reste, on aurait potentiellement donc un recul assez important du VIX pour l'instant, donc de la tension qui règne sur le marché américain, tandis que le silver semble sur ce début de semaine vouloir reprendre direct l'ascension avec plus 4,40 pour l'argent, $5,000 gain pour l'or autour de $5,100 l'once, et on a le WPE, voilà, le CW8 qui avait clôturé la semaine également en positif de 1 point, tandis que les taux, qu'ils soient longs ou courts aux États-Unis, restent absolument hauts. Le 30 ans est toujours à quasi 4,9 points. Ça fait là aussi pas mal de temps qu'on est très très haut. Et finalement, c'est assez drôle puisque beaucoup de monde s'attendait à ce que Donald Trump mette un homme de paille en nouveau chairman de la Fed, et il n'en est rien puisque c'est quelqu'un qui serait plutôt dans la continuité de ce que faisait Jérôme Powell. À ceci près que voilà, comme il sera un petit peu plus vert dans l'institution, institution, il sera aussi par essence peut-être un peu plus malléable, bien que aujourd'hui les jeunes, que ça soit en politique ou on va dire en implication, et encore jeune, tout est relatif, je pense pas que ça soit quelqu'un qui soit si jeune que ça, mais pourrait avoir peut-être un son de cloche qui serait un petit peu plus différent. Et surtout, on le voit pour cette année des midterms, qui, rappelons-le, est en général la moins bonne année de toute la présidence des États-Unis pour cette fameuse seconde année. On aura potentiellement quelque chose qui va se jouer justement par rapport à l'administration de Trump, et je pense que ça pourrait un peu crisper à ce moment-là les marchés. Et souvenez-vous, ça arrivera de nouveau autour de cet automne 2026. Donc clairement, si on nous donne au cours de cette année du moins 10, moins 20% sur indice et du moins 30, moins 40, moins 50% supplémentaire du côté de Bitcoin, ça sera nos opportunités pour justement les années suivantes, et on pourra se dire qu'on a eu de nouveau des opportunités qui auront été relativement lissées au travers du temps, lisibles, et qui nous auront permis de bénéficier de ce que nous offrent régulièrement les marchés. Encore faut-il avoir un petit peu de cash de côté pour en profiter de ces dites opportunités, et c'est pour ça qu'il faut savoir régulièrement reconstituer cette petite poche qui nous permet petit à petit d'investir quand il y a des phases comme ça d'opportunités de marché. Je vous souhaite un excellent début de semaine, un excellent lundi, et n'oubliez pas, vous avez le lien en commentaire et description pour NordVPN. Pour ma part, je vous retrouverai avec plaisir mercredi. Ciao, ciao.